À la une, le blackout à Montréal. Les usagers sont fous des coupures. Les nouvelles compétitions de surf avec 4 rendez-vous internationaux. Et enfin, on vous parlera de musique et de littérature pour terminer. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Montréal plongé dans le noir hier.
Un gros blackout et de longues heures sans électricité et sans que les Pictes et Itoro no Morea Mayao, qui gèrent le réseau depuis début 2023, n'en disent plus sur l'origine de la panne. Leur dernier post publié sur Facebook remercie les clients de leur compréhension et leur patience, mais les commentaires ne sont pas vraiment compréhensifs ni patients. Sur les réseaux sociaux, les usagers estiment que les coupures qui s'ajoutent à de régulières variations de tension deviennent une habitude. Ils craignent pour leurs appareils et appellent la mairie à réagir. Déjà en décembre l'année dernière, les professionnels s'agaçaient contre les pics Teitoro no Morea pour des tarifs qui avaient fait un bond de plus de 30%. Et d'ailleurs, les usagers s'énervent aussi sur le paiement de ces factures. Jamais le bon moment pour venir et une fois sur place, la facture a augmenté pour du retard. Bref, près de 2 ans après la reprise par la commune de la production d'électricité, la grogne monte sur l'île. Plusieurs des 14 techniciens anciennement employés par EDT et transférés à l'EPIC ont rendu leur tablier. Et malgré les nouvelles embauches, les compétences de la structure sont régulièrement remises en cause.
Économie maintenant avec ces prix qui continuent d'augmenter.
1,5% entre décembre 2023 et décembre 2024, d'après l'indice des prix calculé par l'ISPF. Les prix du transport ont bondi de plus de 11% en un an, et notamment les billets d'avion, plus 14,5%. Les loyers et les voyages organisés tirent aussi l'indice à la hausse. En revanche, l'ISPF constate une baisse des produits alimentaires et notamment de ceux de la mer.
Petite frayeur lundi sur un vol d'Air Tahiti.
Le vol 304 qui a décollé à 7h50 de Papeete en direction de Raiatea, alors que l'appareil était arrivé à destination. Le pilote a dû faire plusieurs allers-retours entre Raiatea et Taha à cause d'un problème technique sur le rudder trim de l'avion, un système qui, selon la compagnie locale, sert à compenser les efforts sur le manche de direction. Un souci sans gravité d'après Air Tahiti, mais qui nécessite tout de même une intervention technique. Une 60aine de passagers étaient à bord.
Justice avec cette opération de la brigade de FAA qui a démantelé un trafic de cannabis.
C'était la semaine dernière, l'opération a permis de trouver une plantation de cannabis à Punaouya. Celle-ci était visible depuis l'extérieur d'un domicile, précise la gendarmerie. Elle a retrouvé plus de 1000 pieds de cannabis et 25 kilos d'herbes séchées conditionnées sur place. 2 personnes ont également été interpellées pour trafic de stupéfiants et l'enquête se poursuit.
Il est 7h03 et on passe au sport maintenant avec le calendrier de la Fédération de Surf et 4 rendez-vous internationaux au Fénois.
Oui, l'Assemblée Générale s'est déroulée hier soir et en plus des habituels Tahiti Pro et Rangiroa Pro, 2 compétitions internationales de niveau QS vont être organisées au Fénois. L'une sur le reef break de Taapuna et l'autre sur la plage de Papara. Une opportunité pour les surfeurs locaux de scorer dans ce championnat régional qui est qualificatif pour les Challenger Series. On écoute le président de la Fédération de Surf, Max.
Il faut que nos athlètes locaux puissent être parmi les diplômés pour accéder à la deuxième division qui est les Challenger Series. Et la plupart des compétitions, c'est tout à Hawaï, parce que c'est la région entre Tahiti Nui et Hawaï. Donc de pouvoir faire des compétitions WQS ici sur la Polynésie, notamment à Tahiti, rajouter 2 compétitions, leur permettrait d'avoir assez de points.
Assez de points donc pour grimper en Challenger Series donc, et même aller plus haut, pourquoi pas, et éviter aussi des déplacements en Europe pour aller chercher ces points, justement des voyages qui coûtent cher et peuvent freiner les ambitions des surfeurs. Il reste à trouver des partenaires financiers pour ces compétitions locales et Max Vasna espère que l'effet JO va encore marcher. Autre nouveauté, l'organisation de trial féminin sur la Tahiti Pro du mois d'août. Il y avait bien cette compétition pour les hommes mais pas encore pour les femmes. Ces trials vont permettre aux surfeuses locales de tenter leur chance pour participer à cette compétition internationale à Teahupo'o.
Aujourd'hui, on a beaucoup plus de filles aujourd'hui qui ont la capacité de surfer Teahupo'o convenablement. Donc, on pourra mettre vraiment une compétition triale pour que la meilleure gagne le wildcard. Et étant donné que Vahine, théoriquement, si tout va bien, elle fera la compétition dans le CP. Donc, ça donnerait la chance à d'autres surfeuse de l'élite polynésienne d'acquérir la wildcard.
Et enfin, le PK Zero accueillera aussi une autre compétition, cette fois pour les surfeurs locaux, avec une étape du championnat de Polynésie.
On reste dans le sport avec les trophées pour les meilleurs athlètes de l'année.
Oui, les fameux trophées du sport, ils ont été remis hier soir. Kaoli Vast a obtenu le prix du public, Vahine Fierro et Teura Iterei Tupaya le prix des meilleurs athlètes de l'année. Teana Veille-Pérez en athlétisme obtient le prix Jeune Espoir. A noter aussi qu'Antoine Fermont remporte le prix Sport Extrême. On se rappelle de son record du monde en kitesurf tow-up, et c'est aussi Cédric Van et Thomas Lubin qui ont été récompensés pour la meilleure équipe de l'année. Tout le palmarès est à retrouver sur le site de Polynésie La Première.
Culture maintenant avec le lancement de l'édition 2025 de Coach & Talent.
Plus d'une soixantaine de chanteurs et musiciens ont tenté l'aventure l'année dernière. Le leader de Pepena, Reymana Barey, propose un coaching à des artistes avant qu'ils se produisent sur une scène ouverte. Au programme, travail sur la prestance, la voix, le stress, la technique. Et petite nouveauté, cette année, la Maison de la Culture a mis à disposition une salle de répétition. De quoi encore mieux travailler. Les concerts seront ensuite organisés le premier mardi de chaque mois. Une date mûrement réfléchie.
C'est pas un hasard parce qu'en fait justement on veut inviter les familles à sortir, leur donner aussi la possibilité d'avoir un lieu pour prendre du plaisir avec leurs enfants, même en couple, peu importe finalement, c'est d'avoir une petite activité en début de semaine. Ce qui manque énormément finalement ici, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de pouvoir se libérer sainement avec des musiques variées. On est là pour accompagner aussi les artistes et non pas pour exiger de l'artiste qu'il soit complètement performant.
Reymana Barey, que vous venez d'entendre, espère pérenniser cette opération, un projet dans lequel tout le monde y trouve son compte.
C'est un microcosme qui convient à tout le monde. C'est-à-dire les restaurateurs, ils n'ont pas forcément d'activité en début de semaine parce que toute l'activité est centrée sur le week-end. Là, nous avons une petite activité qui va faire entrer aussi du revenu, mais permettre de pouvoir équilibrer les choses. Ils vont louer la sono, ils vont payer les coachings pour les candidats qui se présentent. Et en contrepartie, ils ont un petit peu de monde. Au lieu d'avoir personne, au moins, ils ont des familles qui sont là pour se tenir et tout ça. Donc, il y a un équilibre qui se fait dans tout ça. Il y a tout qui est lié. Il y a la culture, il y a le privé et puis il y a aussi l'individu. C'est incroyable.
L'année dernière, donc, on vous le disait, plus d'une soixantaine de chanteurs et musiciens sont passés sur scène sous les yeux de Reymana et il y a eu des belles surprises. Des groupes se sont formés, d'autres ont composé leurs propres morceaux et certains ont rencontré le succès. Aou Manava de Papeho et Ivarei tournent en boucle sur les radios. Pour cette année, les inscriptions sont ouvertes, avis aux amateurs ou professionnels de la scène. Que ce soit de la danse, de la musique ou même les DJ, tous les artistes sont invités à se tester sur ces scènes ouvertes. Et pour s'inscrire, rendez-vous sur la page Harmonie de Tahiti ou en MP sur la page officielle du groupe Pepena.
On termine avec cette nouveauté littéraire chez Au Vent des Îles qui nous emmène à Montmartre.
Une destination peu commune pour la maison d'édition locale, mais il s'agit de suivre un des auteurs de la maison, Franck Chanlou. Après un roman sur le bagne de Nouvelle-Calédonie qui avait d'ailleurs remporté un prix national, La Reine des Apaches nous emmène dans un Paris à feu et à sang à la fin du 19e. Une plongée dans les milieux voyous de cette époque remplie de destins cabossés, d'amitié à la vie, à la mort et de guerre de bande. Franck Chanlou, qui après 15 ans en Nouvelle-Calédonie a élu domicile à Las Vegas, dit avoir toujours aimé raconter ses vies accidentées. Et pour mieux rendre l'ambiance de l'époque, l'auteur s'est constitué un petit lexique de l'argot de ces années-là. Il a étudié les noms des bandes et des bars et même les images d'archives et les vieilles cartes du quartier. Bref, on s'y croirait et c'est justement ce goût du détail et le rythme haletant du roman qui plaît au lecteur.
Oui, ça fait partie des qualités d'écrivain de Franck. C'est d'abord le rythme de ses romans et la force qu'il donne au caractère, à ses personnages, toujours avec beaucoup d'empathie, et il en fait des personnages auxquels tout le monde s'attache. Là, en l'occurrence, ils sont extrêmement violents, c'est des voyous qui, pour la plupart, sont très jeunes et qui vivent de larcins, voire même de meurtres. Et pourtant, ils sont tous pleins d'humanité, et il a cette qualité d'arriver à donner de la vie et du fond à ses caractères.
L'éditeur sait aussi qu'entre Montmartre et le Pacifique, il n'y a qu'un pas que Franck Chanlou et ses Apaches finiront par faire. Allez, tant pis pour le spoiler, les Évadés et la Reine des Apaches font en fait partie d'une même trilogie. Et le troisième tome reliera ces deux histoires qui paraissent pourtant si éloignées.
Le héros principal du premier, c'est Victor, qui est donc c'est ce garçon qui se trouve au bagne et qui s'évade. Ils sont deux, il y a Mathilde et Alexandre qui sont ensemble. Et lui est un personnage qu'on sent en devenir. Et dans le troisième tome, il se retrouve tous les deux en Nouvelle-Calédonie et du reste la Reine des Apaches termine sur le bateau qui emmène Alexandre et Mathilde en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, to be continued, comme on dit dans les films. En attendant le troisième tome, il faut lire La Reine des Apaches, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.